Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où je vous parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, vous m'avez reconnu, on est une semaine après les 20 km de Bruxelles pour l'épisode 20, donc ça tombe bien. Après le trail de Namur aussi, qui était le lundi de la Pentecôte, mais aussi le home trail. Donc on est bien chaud, ça a été très productif, on a vraiment fait beaucoup de choses, ça a été...
Lourd, léger, professionnel.
Et donc du coup, on n'oublie pas, on se met en mouvement, on s'active, on va faire un petit peu de footing, un petit jogging, on va à la salle, on fait son ménage, mais surtout... Et on commence par le débrief. Alors on va changer un peu le format parce que je vais pas spécialement rentrer dans des gros détails sur mes semaines. Mais alors je vais parler de quelques trucs pour un peu alléger cette section et vous donner mon ressenti général sur mes semaines. Donc les deux dernières semaines. Alors on se remet en fait des émotions de la GTLC 85 tout doucement. La première semaine, ça a été une reprise en douceur avec quelques sorties assez relaxes, mais tout de même un peu de volume, histoire de justement garder le niveau. Alors, niveau physique, il n'y a plus de douleur à la hanche. Il y a des petites douleurs au niveau du fascia plantaire gauche qui sont un peu embêtantes, mais en fait, j'ai déjà établi un protocole renforcement, étirement du pied, particulièrement au niveau du gros orteil, et je le suis à la lettre. Et j'ai réintroduit de la charge doucement dessus les deux dernières semaines. Donc voilà, c'était très très propre.
Good morning Vietnam!
Alors au niveau des mardis Good morning Vietnam, on n'a pas tergiversé, on a quand même fait le taf. Donc ça, je vais quand même en parler un peu. Alors la semaine passée, effectivement après la GTLC, on a fait une semaine de décharge au niveau du SBD, donc de la force, puisque c'était aussi une semaine de récupération au niveau course. Et en fait, ça m'a permis aussi de revoir un petit peu comment j'allais faire mes programmations. Alors comme je vous en avais parlé, c'est difficile quand on fait de l'entraînement hybride de vraiment pouvoir mettre des chiffres en fait à l'entraînement. C'est-à-dire que même au niveau des vitesses, par exemple à l'entraînement, des allures de vitesse, particulièrement en trail, là c'est encore pire, c'est très difficile. Et donc en fait, on va travailler à l'effort perçu relatif. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on se met une certaine valeur à se dire « aujourd'hui, mon effort doit être entre 1 à 10, doit se situer là parce qu'on va travailler telle et telle chose, telle et telle zone. » Et en fait, au niveau de la force athlétique, on peut fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de fonctionner sur le poids ou la charge que l'on va mettre sur ses barres lors de l'entraînement. Où on a l'habitude de le faire, justement traditionnellement on va dire aujourd'hui je vais mettre 80% de ma charge maximale, etc. Et en fait on va plutôt introduire la notion de RPE comme on en a déjà discuté, parce que ça permet en fait d'y aller en fonction de comment on se sent. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait comme je cumule course à pied avec des volumes qui sont quand même, enfin qui sont pas très élevés mais qui sont quand même conséquents on va dire pour la moyenne, c'est compliqué après d'arriver à l'entraînement force et de se dire ok, aujourd'hui je vais pouvoir mettre telle charge, parce que si le mardi Vietnam justement je me fais une séance de côte où je me détruis un peu les quadriceps et que je vais squat directement après ou 6 heures après, je suis pas sûr de mettre les charges que j'avais prévues initialement. Et en fait travailler au niveau du RPE, ça me permet de moins me prendre la tête et d'avoir un peu cet aspect ok, je progresse quand même parce que je fais quand même du taf. Mais je sais que je ne me mets pas une pression au niveau des barres que je dois atteindre. Alors, c'est cool d'avoir des références parce que maintenant, je connais mes max. Je les ai poussés un peu plus. J'ai fait du 5-3-1 classique, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, tout ça, ça m'a aidé à vraiment, on va dire, apprendre les bases. Maintenant, ce que je veux vraiment faire, c'est travailler avec cet effort perçu et pouvoir arriver à déterminer des RPE qui sont vraiment en fonction des reps qui me restent en réserve. Alors c'est encore quelque chose que j'apprends à faire par moi-même. Alors merci Antoine d'ailleurs si tu écoutes ce podcast, parce que tu m'as vraiment éclairé là-dessus. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus et ça me permet de revoir ma programmation pour les mois à venir. Et donc franchement super, merci à toi pour les conseils parce que c'est vraiment bénéfique. Et donc voilà, là, la première semaine avec le mardi Vietnam, c'était une semaine de décharge. Donc, on a déchargé pour que l'effort soit relativement OK, mais sentir qu'on bosse quand même. Alors, je me suis vraiment surpris parce qu'en fait, je sens que que mes jambes ont quand même vachement bien récupéré. Maintenant, ce qui va se produire, c'est que je vais reprendre donc cette méthode de 5-3-1, mais en rajoutant le RPE dedans pour ma programmation. Et je pense que ça va être beaucoup plus bénéfique pour atteindre des nouveaux PR, en tout cas d'ici quelques mois. Deuxième mardi Vietnam. Alors là, bah, pas vraiment mardi Vietnam, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour comprendre ça, en fait, je vais passer directement au débrief de la course de samedi, de dimanche, pardon. Alors, dimanche, c'était les 20 km de Bruxelles. Donc, les 20 km de Bruxelles, c'est une course assez épique. Ici en Belgique, il y a énormément de participants. Et en fait, j'avais pas d'objectif personnel pour cette course. J'allais en tant que pacer, donc j'allais en tant que banana boy avec mon costume de banane pour donner l'allure à un de mes potes à Toulouse qui allait effectuer en fait son premier 20 km de Bruxelles. Alors, faut savoir que j'ai extrêmement mal dormi, j'ai eu 2 heures de sommeil, je me suis levé le matin, bon ben voilà, c'était un peu compliqué. J'avais pas trop la forme, je le sentais que j'étais un petit peu impacté, mais bon, c'est pas grave. Au final, le P, c'était pas difficile à tenir. L'objectif était de faire sub 2 heures, donc c'était pas difficile en soi pour moi. Mais il fallait quand même être régulier, il fallait aussi apporter beaucoup de motivation pour justement Toulouse qui n'avait jamais fait ce genre de course. Et donc, il fallait vraiment être intelligent dans le pacing. Alors, du coup, on est parti ben, à 4. Il y avait un peu plus de personnes, il y avait un peu plus de potes qu'on connaissait, mais voilà, moi, je me focus vraiment sur les personnes avec qui on avait organisé le truc. Alors, il y avait Toulouse, il y avait François et Delphine, donc mes deux partenaires de souffrance de la salle, et Delphine qui faisait également ses premiers 20 km de Bruxelles. Alors, j'ai fait le pacing de manière en négative split, donc en fait chaque kilomètre est plus rapide les uns que les autres, donc on commence plus lent et on termine plus rapide. En tout cas, c'était la stratégie de base. Faut savoir que aux 20 km de Bruxelles, il y a quand même quelques montées, même si c'est pas grand-chose, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, pour les coureurs qui n'ont pas l'habitude du dénivelé, c'est difficile d'établir un pace. Un négatif split, ou en tout cas de s'y tenir vraiment à 100%. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti très lentement, donc on est parti à 6-10 au kilo, et 6-10 au kilo, ben, en fait c'était déjà pas mal, quoi. C'était vraiment bien, et je sentais que Toulouse était vraiment bien dans sa course, donc c'était parfait. On a lancé un peu, alors il a commencé à faire très chaud, je peux vous le dire avec le costume de banane, je l'ai senti, ça faisait effet sauna, c'était pas fou, mais voilà, ouais, ça a quand même été tenable. Et en fait, voilà, incroyable, incroyable course, vous avez environ, 30, si je ne me trompe pas, cette année-ci, il y avait 33 000 coureurs, environ 6 000 marcheurs, une chaleur de malade, vous avez des animations tous les 2,5 km, enfin vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande, avec une préparation s'il vous plaît, ne faites pas comme les nombreuses personnes qui ne se sont pas entraînées, qui ont fait des malaises, qui ont eu des problèmes cardiaques également, qui auraient pu être détectés lors de l'entraînement, parce que voilà, si on s'entraîne de manière correcte et surtout sérieuse, ben, en fait c'est le genre de truc qu'on pourrait détecter avant. Donc ne faites pas de bêtises, si vous voulez faire une course comme les 20 km, il ne faut pas négliger la distance, 20 km c'est une grosse distance. Si vous faites 5 km, c'est déjà beaucoup. Si vous faites 10 km, c'est déjà pas mal non plus. Mais 20 km, on rentre vraiment dans un territoire où il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, comme la nutrition, l'hydratation pendant la course. Et c'est très important de savoir ce que vous faites, ou en tout cas d'expérimenter. Et donc pour ça, il faut vous entraîner. Alors, pendant la course, donc on a bien tenu le pace jusque 15 km, où là, je sentais que le poulain avait un petit peu plus de mal, c'est-à-dire qu'en fait, je commençais à voir sur son visage que son RPE était à 8-9, que ça commençait à être difficile. Et il faut savoir qu'en fait, il faut encore tenir la côte de Tervuren, qui est là où tous les visages se détruisent, les âmes se déchirent, les gens commencent à marcher. Alors, il faut savoir qu'il a tenu jusqu'au bout, j'ai gueulé dessus, mais oh là là, il m'a détesté, je pense. Je crois vraiment qu'il m'a détesté pendant cette côte. Parce que je lui ai dit, ah, allez, vas-y, c'est bon, t'y es presque, t'y es presque, t'y es presque, tu vas voir le bout, tu vas voir le bout. Et en fait, c'est vrai que quand on arrive au-dessus de la côte, on voit le parc du Cinquantenaire au loin, on voit l'arche, et on sait que bah, il reste à peu près 2 km, quelque chose comme ça. Donc voilà, la course est faite en soi, mais l'objectif était sub 2 heures. Et là, vraiment, sur les 2 derniers kilomètres, j'ai vraiment, vraiment, vraiment crié dessus. J'ai dit, vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire. Regarde pas ton pace, lâche l'affaire, il faut que tu te sentes comme à l'entraînement, il faut que ce soit dur, c'est fait pour être dur, tu t'es entraîné pour ça. J'ai vraiment utilisé tout ce qui me passait par la tête. Quand je passais dans la foule, je leur faisais faire blinder de bruit pour qu'il ait de la hype. Vraiment, c'était ouf. Et à un moment donné, je vois ma montre, je vois, il reste 400 mètres. Je gueule, allez, il reste 400 mètres. Et là, j'étais là, vas-y, pousse, il reste 400 mètres. Et là, je l'entends, je peux pas, mais je lui dis, si, tu peux, tu peux, tu peux. Et on se rapprochait vraiment des 2 heures. Et il arrive sous l'arche de l'arrivée. Et là, 1h59 et 37 secondes, sub 2 heures, réussi pour le Toul. Incroyable, c'était incroyable, c'est un moment incroyable, franchement j'ai adoré. Je pense qu'il est très fier de lui, en tout cas il peut être très fier de lui parce qu'il a tenu une prépa, même si voilà, il a peut-être eu des petits écarts, mais c'est pas grave, on a tous des petits écarts pendant les prépas. Il a tenu, il a tenté, il l'a fait, et sub 2 heures, il faut quand même, pour un premier, il faut quand même aller le chercher. Donc félicitations à toi, c'était incroyable. Merci de m'avoir fait vivre ça avec toi. Merci de m'avoir fait confiance. Pour moi, c'est un beau cadeau que tu me fais. Donc, franchement, super et encore félicitations. Et donc, voilà, je suis rentré après ça, des 20 km de Bruxelles. Bon, évidemment, on a bu un coup, on a mangé un bout ensemble, on a fêté ça. Et puis, en fait, le lendemain, j'avais le trail de Namur qui était un trail de 24 km, et il y avait à peu près, si je dis pas de bêtises, il y avait 900 mètres de D+, quelque chose comme ça. Et en fait, quand je suis rentré des 20 km de Bruxelles, j'ai commencé à avoir le nez fort encombré, la gorge un peu irritée. Et le lendemain matin, ça a pas. Voilà, ça a été véridique, ça a été confirmé. Donc j'avais bien chopé quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'avais bien chopé. Je crois que le manque de sommeil n'a pas aidé. Comme vous entendez, j'ai encore le nez un peu bouché. Je parle encore un peu du nez. Et donc voilà, mal de gorge, grosse toux. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même prendre le départ. J'avais un pote à moi, Lionel, qui voulait faire le 24 aussi, qui était un petit peu blessé ces derniers temps, au niveau du fascia également. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, on va quand même le faire. Et ben en fait, au début, c'était très dur. Alors Lio, il a décidé de lancer directement les hostilités. J'ai dit ok, d'accord, j'ai suivi, mais en fait, au niveau respi, j'étais pas du tout dedans, j'ai pas mal toussé, je sentais que j'avais pas mal de choses dans la gorge, c'était pas très cool, et j'arrivais pas du tout à prendre mon rythme. Et c'est voilà, on a vraiment vécu l'expérience à deux, où on était un peu dans le mal tous les deux, particulièrement dans les enfin en vrai, dans les descentes, on arrivait à taper, donc ça c'était cool. Moi en tout cas, je me sentais très en confiance dans les descentes, j'arrivais à lancer, donc c'était plutôt pas mal. Mais alors, au niveau des montées, je sentais vraiment que c'était dur. Et en fait, c'est vraiment vers le 14e kilomètre que j'ai eu une sorte de décrassage. J'ai pris un gel à ce moment-là qui en fait, m'a retapé après le 17e. Et donc, du coup, ça m'a permis en fait, de tenir et d'être un peu plus à l'aise quand même dans la course. Du coup, au niveau de mon RPE, bah, j'étais quand même 7-8. Ce qui est quand même un peu dur en fait sur ce genre de distance, parce que bah voilà, c'est sûr que en fait on peut avoir un RPE 8 sur un 5 km, on peut avoir un RPE 8 sur un 24, enfin c'est juste ça dépend de la distance, ça dépend de l'effort, ça dépend le tempo, ça dépend ce qu'on décide de donner, et puis voilà. Mais là je sentais que, je veux dire, par rapport à mon pace habituel sur ce genre de distance et ce genre de dénivelé, et surtout aux entraînements, ce jour-là, j'étais au-dessus de ce que je pouvais. Enfin, j'étais vraiment au-dessus par rapport à mes sensations d'habitude. Donc voilà, j'étais pas bien, j'étais pas fou. Mais en fait, après ce gel, après le 17e, voilà, on a commencé à redescendre un petit peu doucement. Et il y a eu un moment donné où en fait, on a la dernière descente de la course. Et juste après ça, il y avait le challenge King of the Citadel, ou je sais plus comment ils ont appelé ça, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. Et en fait, on remontait, pour ceux qui connaissent, le Tiennola, qui revient juste au-dessus de la citadelle, en fait, et qui était c'est une grosse montée de 600 mètres avec à peu près un gradient de 15%, un peu plus même. Et c'est un gros segment Strava en fait, et il faisait une sorte de challenge. Donc celui qui faisait le meilleur temps dessus pouvait remporter un lot. Et en fait, quand je suis arrivé en bas, j'ai vu le tapis start, je sais pas pourquoi, mais j'ai lâché les chevaux en fait. Mais déjà, en fait, j'ai lâché Lio à la descente juste avant, parce qu'en descente, il avait un peu du mal avec les genoux et tout, et moi je sentais que ça allait. Et je me suis dit, voilà, c'est la fin, je vais me faire un peu plaisir, je vais quand même descendre. Et en fait, après, dans la montée, j'ai vraiment tapé dedans, et il y avait cette ambiance un peu Zegama, mais du pauvre. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs en haut avec une grosse cloche de vache qui tapaient, 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 c'était assez cool. Enfin, c'était vraiment sympa et ça motivait. Et puis juste après ça, il restait 400 mètres avant, même pas avant la fin de la course. Donc c'était vraiment très très stylé. J'ai vraiment kiffé, franchement. C'était cool. Maintenant, après ça, j'étais toujours malade et ça, c'était pas cool. Voilà, on a pris le soleil, on a rechargé en vitamine D, etc. Mais j'étais pas au top de ma forme. Et donc voilà, ça c'était le trail de Namur. Alors, si je dis pas de bêtises, on finit en 2h34. Donc voilà, c'est pas une grande perf, mais l'important c'était, enfin, en tout cas, de s'amuser. Et je pense que ça a été réussi. Et suite à ça, s'en est suivi en fait une semaine de repos. Parce que j'étais véritablement malade. Le nez, la gorge. Beaucoup de mauvaises choses qui en sortaient. C'était pas fou. Un petit peu des maux de tête, particulièrement mardi, mercredi. Alors, il n'y a pas eu donc de mardi Vietnam ce mardi-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté un décrassage. Alors, j'ai fait découvrir du trail à un de mes potes de la salle, en fait, qui lui ne fait que de la force. Et donc, il avait envie de découvrir un petit peu autre chose. Donc, j'ai pris Lionel avec moi, un autre Lionel, et on a été faire une grosse montée, une grosse descente en trail. Je crois que ça lui a un petit peu tapé dans les mollets, on va pas se mentir, mais c'était assez cool. Et puis moi, ça m'a permis en fait de faire une petite récupération. Sans justement pousser trop. Donc voilà, un peu de marche, un peu de course, un peu de marche, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il me fallait, mais j'étais toujours malade et donc j'ai préféré ne pas pousser de trop. Et donc voilà, en tout cas pour cette semaine-là, c'était très succinct. On n'a pas fait énormément d'entraînement. Alors, par contre, fin de semaine, là, on avait le home trail, les copains, le trail de Kratos à EY. Et ça, c'était quand même incroyable. C'était un 55 km à EY. Il y avait annoncé 2800 mètres de dénivelé positif. On nous avait déjà prévenu qu'on allait monter-descendre le viaduc. On ne nous a pas prévenu forcément quand, mais en tout cas, on l'a vu, il n'y a pas de souci. Alors, j'avais quelques potes qui étaient sur le 24 km, qui ont pris aussi cette foudre. Mais bon, on va parler de ma course. Alors, voilà, comme j'ai expliqué, j'avais une semaine malade, donc je récupérais doucement. Faut savoir aussi que vendredi, j'ai eu l'excellente mauvaise idée d'aller faire du squat parce que ça me manquait, j'avais envie d'en faire. Et j'allais à la salle à la base pour faire un peu le haut du corps, mais je me suis dit, je vais quand même faire du squat. Et en faisant du squat, j'ai fait donc RPE 6 à peu près, je pense. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, grosse courbature, évidemment. Et 2 jours après, c'était aussi le départ de la course. Donc, excellente mauvaise idée de ma part. C'était vraiment incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un aussi stupide. Ne faites jamais ça. Et donc, on démarre à 8h du matin. Donc, je me lève à 4h30, 4h30, 5h. Déjeuner classique, pancakes, vous connaissez. Pour ceux qui suivent sur Instagram. Les pancakes à la banane, c'est la base pour moi. Le déjeuner d'avant-course, c'est plein de glucides, un peu de prot, pas trop de gras,
mais tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie 3 heures après pour avant de démarrer. Donc voilà, 4h30, 5h, je fais même pas mon sac en fait, je tape tout dans ma caisse où j'ai tous mes trucs de nutrition, je mets mes sacs, mes flasques, je tape tout, je me dis oh, je ferai ça sur le parking, donc je persiste vraiment, mais à l'arrache, mais complète, parce que j'étais malade et donc je me suis dit bah, de toute façon, la course, je vais quand même pas performer de ouf, vu mon état, donc autant y aller et profiter vraiment de la course et faire ça en mode tranquille, et on verra bien comment ça se passe en fait au final. Donc j'arrive là-bas, départ à 8h, je fais mes flasques, etc. Enfin, je prends la ligne de départ, et dans la ligne de départ, il y a un beau mouvement de foule, il y a quand même pas mal de monde, je pense qu'il y avait au total un peu plus de... il y avait 250 coureurs, je pense, environ. Après, est-ce que tout le monde a pris le départ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait 250 coureurs, et il y a eu pas mal de gens qui sont plantés dans le parcours, donc il y a eu pas mal de disqualifications. Bon, bah ça arrive, hein, ça m'est arrivé à la LAT aussi, voilà. Donc voilà, on prend le départ de la course. Alors, dès le départ, on fait une petite portion de ravel et en fait, on nous met directement dans les bois, directement dans les forêts. Et là, bah, en fait, ça rigole pas, quoi. Genre, on n'était pas là pour rigoler du tout. Dès le départ, on prend une petite côte de 80 mètres, quelque chose comme ça. Donc, c'est franchement, voilà, c'est déjà costaud. On commence sec. Et en fait, donc on prend une énorme côte entre le 6e kilomètre et le 8e kilomètre qui monte très très fort. Elle monte sur 2 kilomètres en fait, ça fait que monter. Petite bosse, petite descente. Remontée technique et puis là on redescend énormément et juste avant le ravito ils nous ont mis une crasse à passer 20% c'est vraiment une très belle crasse avant de remettre la descente derrière donc voilà on arrive au premier ravito à 13 km alors c'est cool parce que je fais une partie de la course avec Christophe, un coureur que j'ai rencontré lors de la LAT, avec qui bah justement j'avais fait le parcours et avec qui on avait loupé les deux ravitaux. Je le revois sur la course, c'était assez agréable de rediscuter avec lui et de faire un bout de chemin. Puis je l'ai un peu lâché. Et premier ravito, bah, moi en fait j'ai un peu du mal à trouver le rythme. Je sens que je suis toujours malade, que je suis toujours fatigué, que je suis pas en forme. Mais je me dis, c'est pas grave, en fait, on va juste s'amuser et j'essaie de tenir. Et là, je mets en fait le cruise control jusqu'au 23. Donc, 23, c'était le deuxième ravito. Et là, bah, encore une fois, juste après le premier ravito, en fait, on nous demande de relancer directement avec une énorme côte de je sais pas combien de kilomètres, mais elle fait 3 km, je crois, à la côte, à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près 3-4 km. Donc, ça tape, hein, ça rigole pas. Là, très très beau, très très beau parcours. Franchement, c'est technique et en même temps c'est beau. En même temps, on n'a pas le temps de s'embêter. Il y a des points de vue à certains passages. Bon, je prends pas forcément le temps de faire une pause parce que j'essaye de rester en rythme, etc. Vu que je suis pas top en forme, donc je me dis autant pas s'arrêter. Donc vraiment cruise control jusqu'au deuxième ravito. Deuxième ravito, je sens que ça va, mais par contre la chaleur commence à taper. Là, ça commence à pas rigoler. Je crois qu'il faisait déjà 20 degrés à ce moment-là. Plein soleil, bon, il y a énormément de passages dans des forêts, mais on est quand même plein soleil. Il n'y a pas de passage à gué, donc on n'est pas obligé de passer dans une rivière, mais il y a quelques passages assez rocailleux où il y a une rivière qui coule et en fait on est sur le côté de la rivière, donc il faut essayer de passer un petit peu comme on peut. Donc ça, c'est un peu technique. Pour moi, c'est un peu difficile parce que en fait, je suis pas super réveillé, du coup, je suis pas très concentré. Et du coup, j'ai un peu du mal à avoir cette analyse du terrain, en fait. J'ai un peu du mal à analyser le terrain en temps réel et me dire, OK, là, je peux poser le pied, etc. Et en fait, je prends peu de risques parce que j'ai peur de me blesser, en fait. Et donc, après le 23e, comme je dis, là, la chaleur, elle a vraiment commencé à taper. Il n'y a plus vraiment de grandes côtes comme on l'a fait juste avant. En fait, il y a des côtes qui sont quand même conséquentes. Voilà, on va quand même parler de 80 à 100 mètres de D+, mais en fait c'est pas très long, c'est pas sur des kilomètres, c'est vraiment genre un gros mur d'un coup pendant 600 700 mètres à 15 16%, et puis après en fait ça redescend, donc c'est beaucoup de relances, c'est énormément de relances à partir de là jusqu'au 35e, voire même 40e. En fait, c'est beaucoup des petites montées, des petites descentes, des petites montées, des petites descentes, des petites bosses en fait, et donc c'est énormément de relances. Mais donc dans ma tête, vu que enfin, je sens qu'au niveau respiratoire, je suis OK, mais que c'est vraiment cet aspect énergie générale que j'ai un peu du mal à gérer avec la fatigue globale, avec la maladie, ben, je me dis OK, là vraiment je suis en gestion, et je me dis un ravito à la fois. Donc on arrive au 33e, 34e, je pense que c'était, ou 32, non, 32e, 32e kilomètre le ravito. Et là, un peu de foule, j'avoue, un peu beaucoup de monde. Et je me dis, oh là là, ça prend du temps à recharger. Là, je perds pas mal de temps en fait sur le ravito parce que ben, juste pour avoir accès à l'eau, il y a tellement de monde. Parce qu'en fait, c'est un croisement où les 80, les 55, les 35, les 20 et les 24. Et la petite distance encore en dessous, tout le monde se regroupe en fait sur le ravito. Et donc du coup là pas mal de pertes de temps. J'aurais préféré que le ravito soit un peu plus gros, mais bon voilà, c'est pas grave. De toute façon, on n'était pas là pour faire un chrono, on était là juste pour faire du volume en fait, et essayer de prendre ce qu'il y avait à prendre, et on l'a pris. Et donc on repart de là. Alors là par contre vraiment jusqu'au 40e kilomètre, un peu dur, et en fait j'ai très 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 peur d'accélérer dans les descentes. Je sens que ma concentration n'est pas du tout là, que mon cerveau n'est pas capable de vraiment analyser le terrain dans la descente, et en fait j'ai très peur d'accélérer. Et le fait d'avoir peur d'accélérer dans les descentes, ça me fait en fait inconsciemment me pencher en arrière, et donc mes jambes atterrissent pas sous mon centre de gravité, et en fait je commence à avoir des douleurs dans les ischios. J'ai même eu une douleur sciatique que je n'avais jamais eue auparavant. Donc voilà, ma forme de course n'était pas du tout optimale, j'étais pas en forme, et j'ai vraiment essayé de tempérer le plus que j'ai pu. Et au final, en fait, à un moment donné, au 40e kilomètre, alors je sais pas ce que c'est, est-ce que parce que je pense que j'ai quand même pas mal mangé. Maintenant, j'ai moins mangé qu'avant, et j'avoue que j'ai pas mangé autant de protéines que j'avais l'habitude de manger, parce que bah, en fait, sur les ravitaux, il y en avait tout simplement pas. Il n'y avait pas un truc un peu protéiné à prendre. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu marqué pour moi, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'aurais pu prévoir moi-même, je savais pas. Je suis parti à l'arrache, hein, donc voilà, y a pas de secret. Si on part à l'arrache, il faut savoir subir les conséquences, hein, on paye le prix de ses actions et de ses inactions. Là, je les ai payées. Et en fait, au 40e, j'ai pris une sorte de mur. Alors, c'était pas vraiment un mur, mais je sentais que mes jambes étaient coupées. En fait, j'avais du mal à relancer après les montées. J'avais du mal à courir dans les petites montées, dans les montées où normalement j'aurais pu être capable de courir. J'avais vraiment du mal à relancer, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, là c'est un problème clairement d'énergie. Je vais mettre deux gels directement droit dans la cuve, et on va plus rigoler, et puis on va finir, on va y aller au finish, quoi, en mode viking. Et donc je prends les deux gels, j'attends que ça passe. Parce que j'ai vraiment pris deux gels d'un coup, mon estomac a réussi à tenir ça, j'étais là, j'étais très fier de moi, on va dire. Je prends les deux gels, j'avais du Mortaine dans une de mes flasques, j'avais rechargé en boisson électrolyte directement au ravito, donc il proposait un truc, voilà, c'était un peu dilué, mais bon, au final, ça passait quand même. Donc je prends ça, je bois énormément. Et puis 15-20 minutes après, là, je sens que ça revient juste avant le ravito du 45 km. Donc je tape, 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 tape. J'arrive au 45. Là, je sens, allez, ok, c'est parti. J'arrive à grimper. J'arrive à vraiment les mains sur les genoux dans les grosses côtes. J'arrive à tout relancer. Très satisfait. Alors, c'est sûr que mon pace n'est pas incroyable à ce moment-là parce que l'air de rien, il y a une grosse fatigue accumulée. Mais j'arrive quand même à encore courir à ce moment-là. Donc je me dis, bah, en fait, là, pour moi, ça, c'est un point important. C'est un point où je me dis, voilà, j'étais dans un moment à vide, un gros passage à vide, ça allait revenir, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir, c'est ce que je me répète dans ma tête. Effectivement, ça revient, et quand ça revient, je suis capable de, en fait, pas avoir une méga hype en mode ok, c'est bon, je cours à fond, mais en mode ok, c'est revenu, maintenant tu tempères et tu prends ce que t'as à prendre, mais tu essayes que ce soit le plus diffus possible avant le prochain coup de mou, en espérant qu'il n'y en ait pas jusque la fin. Et donc voilà, là on arrive à la fin de la course. J'ai vraiment encore de l'énergie, je suis content, mais une fois que je passe à la ligne d'arrivée, clairement, il n'y a plus rien qui tient. Il y a une destruction, mais totale musculaire au niveau de mes jambes. Alors le squat n'a évidemment pas aidé, je suis parti déjà avec des courbatures, mais là j'étais vraiment mais refait. Gros rush d'émotion, Vraiment, j'ai explosé, j'étais ultra content d'avoir fait cette course, elle était magnifique, le parcours était incroyable. Même pour les petites distances, toutes les critiques que j'ai entendues sont extrêmement positives. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau de l'organisation, mis à part le ravito, où tout le monde est regroupé, où effectivement, il y aurait peut-être pu avoir plus de personnel, ou en tout cas un ravito plus gros, tout le reste est incroyable. Tout le reste, l'organisation est tip-top. Franchement, les gars, vous gérez, ça se voit que c'est la 16e édition. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est une des plus belles courses que j'ai faites. Pour moi, c'est aussi le trail le plus difficile que j'ai fait en Belgique depuis que j'ai commencé le trail en 2017, 2016-2017. Voilà, pour moi, c'était vraiment la course la plus dure que j'ai faite ici, dans ce pays, et avec des côtes qui paraissent mais interminables à certains moments. Et en fait, qui sont un excellent, enfin c'est un excellent terrain d'entraînement pour, oui, d'enterrement aussi, pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui pourrait se passer à la montagne. Alors l'altitude en moins, évidemment, on est dans des forêts également, mais voilà, ça donne vraiment un petit avant-goût de ce qui peut se passer si on part dans des régions un peu plus montagneuses. Et donc franchement, j'ai beaucoup d'enseignements sur cette course, ma gestion au niveau des montées. Il faut que je travaille mes descentes techniques, voilà, je le sais, surtout avant la Wildschrubel en Suisse. Donc, il faut absolument que j'apprenne à travailler mes descentes techniques. Il faut que je fasse du renforcement au niveau de mes ischios parce que mes ischios ont pris vraiment tarif sur les descentes. Donc, voilà, on est vraiment sur beaucoup d'apprentissage, beaucoup de positifs. J'ai pas beaucoup de négatifs à donner. Franchement, je crois que j'ai tout dit au niveau négatif, c'était vraiment juste ce petit ravito, mais sinon tout le reste est incroyable. Le balisage pour moi n'a posé aucun problème. Alors évidemment, j'avais la trace sur ma montre, parce que je ferais plus l'erreur trois fois, mais voilà, franchement incroyable. Alors petite pensée à Christophe qui lui s'est planté juste à la fin, justement avant le dernier ravito. Il n'a pas vu le dernier ravito, donc il a été disqualifié de la course malheureusement. Mais voilà, petite pensée à lui qui n'a pas eu les 55 km, donc il lui manque 7 km je crois au total. Mais c'est pas grave parce que de toute façon tu vas aller prendre ta revanche sur le Lavaredo en Italie, et j'espère que tu vas avoir une course incroyable là-bas parce que le parcours a l'air juste incroyable. Et donc voilà, au niveau course, on est sur un petit total cette semaine-ci de passer 80 km avec plus de 3600 mètres de dénivelé positif, et une petite sortie vélo dans l'histoire, histoire de décrasser. Alors au niveau force athlétique, évidemment, à part le squat vendredi, j'ai pas grand-chose d'effectuer cette semaine, mais on va reprendre vraiment à fond cette semaine-ci, on va charger. Parce que je me sens déjà un peu mieux. Bon, je parle encore un peu du nez, mais en tout cas, au niveau énergie, ça commence à revenir. Et donc, franchement, top, top, top. Je suis vraiment, vraiment content de mes 2 semaines.
This morning, I discussed the idea of the self as the basis of the universe.
La pensée pour moi-même cette semaine, alors c'est une quote, c'est une citation, je ne connais pas l'auteur, j'avoue. Elle dit celle-ci, en fait tu peux jamais être vraiment présent jusqu'à ce que tu sois fier de ta propre présence. Alors au début j'ai eu un peu du mal à comprendre cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois, je l'ai vue passer plusieurs fois, je me suis dit ok, mais je suis pas vraiment sûr de comprendre le sens parce que en fait il y a cet aspect être fier de sa présence dedans. Et en fait, la fierté personnelle, c'est un truc que j'ai un peu, je vais pas dire banni de ma vie, mais c'est en fait, j'ai pendant pas mal de temps, j'ai un peu travaillé à essayer de mettre mon ego de côté le plus possible. Parce que je me suis rendu compte, quand j'étais ado, quand à l'école, etc., voilà, les gamins sont pas forcément sympas, on se fait un peu harceler, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était, et même dans ma vie professionnelle plus tard, tout ça, c'est un peu lié à mon ego, en fait. J'ai tellement cette envie de prouver au monde que je suis capable de, que, en fait, c'est mon ego qui attire ça. Et j'avais un peu. En fait, je me suis un peu mis dans la tête que cet ego était. Cette fierté était en fait mal placée, était un petit peu
la mauvaise raison pour laquelle je faisais les choses. Donc c'est un peu la mauvaise raison pour laquelle j'ai commencé à perdre du poids. C'est parce que voilà, c'était un ego, on m'a un petit peu tapé sur les doigts en me disant ben voilà, t'es gros, machin. Il y avait un peu cet aspect fierté qui était là où je sentais que mon ego était touché. Et en fait, en supprimant entre guillemets mon ego, mais en fait toutes ces choses-là étaient plus faciles pour moi parce qu'en fait j'ai développé vraiment ce enfin je m'en balèque en fait, je m'en fous en fait. Dès quelqu'un, et même encore maintenant dans ma vie de tous les jours, il y a très peu de personnes dans mon entourage qui peuvent me faire une critique et que ça ait un impact sur moi en fait. C'est-à-dire qu'on va me faire des critiques constructives sur ce que je fais, etc. Je peux l'entendre, mais c'est très rare quand je vais le prendre parce que bah, déjà ça dépend de qui ça vient. Si ça vient d'une personne qui n'est pas là où moi j'ai envie d'être, il n'y a aucune raison que je prenne son conseil, surtout s'il n'est pas là où il me dit d'aller. Donc c'est très, voilà, c'est très filtré de base. Mais en fait, vraiment supprimer mon ego, ou en tout cas cette part de moi de fierté qui me disait, ouais, mais là, il y a lui, il fait ça, et ça se met un peu comparaison, etc., qui entachait mon bonheur en fait, parce que la comparaison est un. La comparaison, en fait, c'est le voleur du bonheur, quoi. C'est horrible. Donc, en fait, j'ai arrêté ça, j'ai mis mon ego de côté, je fais, ok, maintenant, je suis capable de prendre les choses, je suis capable de voir et de me poser les questions qui fâchent et avoir les réponses qui fâchent, mais au moins, je vais travailler pour être mieux que ça. Et donc, tu ne peux pas être vraiment présent jusqu'au moment où tu es fier de ta présence. Ben, ça veut dire qu'en fait, il faut quand même avoir une certaine fierté de soi et avoir une bienveillance envers soi, en fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est pas une fierté de fier coq en mode oh, regardez-moi, machin, etc. Mais c'est se voir soi-même et s'accepter soi-même. Alors moi, j'ai encore ce problème de dysmorphie au niveau de mon physique où enfin, je ne me vois pas de la même manière que les gens me voient. Et bah ça, en fait, c'est quelque chose qui, justement, devient un petit peu plus facile à gérer en se disant, mais ouais, en fait, je fais tout ça. Je fais ci, je fais ça, je fais énormément de courses à pied, je fais de l'ultra-trail, je réussis des courses, j'ai une belle carrière. Voilà, en tout cas, globalement, dans les échecs, j'apprends énormément de choses et ça me permet de mettre toujours au-dessus. Et quand je regarde où j'étais il y a un an, il y a un mois, il y a une semaine, ben en fait, je suis largement au-dessus de tout ça. Quand je me regarde dans le miroir le soir en brossant les dents, je me pose la question, est-ce que tu as été meilleur aujourd'hui qu'hier? Généralement, c'est le cas parce que voilà, je fais toujours ce que j'ai à faire, donc ça veut dire que je m'améliore, que je suis discipliné, etc. Et donc, en fait, quand on est fier de sa présence et qu'on commence à prendre soin de soi au niveau physique, il y a une énorme différence au niveau de son ressenti. Alors, quand ben, moi je me sens bien, quand je me sens en forme et que que je me regarde et que je me dis, ok, je me vois bien, ben, en fait, je suis vraiment beaucoup plus heureux, on va dire. Mais du coup, quand je suis plus heureux, je traite les autres personnes d'une meilleure manière. Mais si je traite les autres personnes d'une meilleure manière, je traite ma propre personne d'une meilleure manière. Et du coup, en fait, je fais plus de choses. Et ça me permet de vraiment remettre beaucoup de choses en question et de me dire, putain, mais là, ouais, en fait, là, trop bien, parce que je me sens bien, donc j'ai beaucoup d'énergie à dépenser, donc je peux aider les gens, donc je peux aller vers cette personne qui m'a déjà demandé quelque chose, que j'avais mis un peu de côté parce que j'étais pas trop dans le mood à ce moment-là. Je peux prendre ce projet parce que ben, j'avais pas forcément l'énergie pour le faire et maintenant, ben, oh, j'ai un élan de motivation, je le fais. Voilà, il y a vraiment. Là, je commence à comprendre la quote en me disant, ben ouais, en fait, il faut comprendre qu'on est dur avec soi-même, mais en fait, tout ça, il faut être fier de ce qu'on accomplit et il faut vraiment commencer à s'aimer, à s'apprécier. Et en fait, l'ego, on peut l'avoir, mais il faut pas avoir l'ego qui vous fait faire les choses pour les mauvaises raisons. Il faut avoir l'ego pour vous dire, vous avez travaillé, vous méritez ce que vous avez, vous méritez ce qui vous arrive. Parce qu'on paye le prix de ses actions et de ses inactions. Et donc, si des choses positives vous arrivent, c'est que vous avez fait le travail, et ça, faut en être fier. Et ça vous permet d'être présent, ça vous permet d'être là dans l'instant et de vous dire, voilà, moi, je suis là dans ma vie, je respire, je me sens bien, je suis pas dans ma tête, je suis capable de. Et ça, c'est juste
Voilà, pour moi, c'est une épiphanie, en fait, de comprendre ça. Mais oui, en fait, je suis clairement de retour, les pieds sur terre. Et vraiment, le fait de prendre soin de soi au niveau physique, donc bah, ça, évidemment, c'est un topic de discussion qui revient tout le temps dans ce podcast, mais ça fait partie du truc. Mais le fait de prendre soin de soi, d'être en contact avec l'extérieur, avec le monde extérieur, avec la nature, et de prendre soin sur le plan physique, mais sur le plan mental. En fait, ça vous permet d'avoir une perspective, mais complètement différente. Si vous passez une mauvaise journée, il y a de fortes chances que le matin, quand vous êtes levé, il y a un truc qui vous déplaisait, vous n'étiez pas vraiment fier de votre présence, en fait. Et en fait, avoir cette perspective de vous dire, bah, ok, là, j'ai peut-être pas un bon jour à cause de ci ou ça, c'est pas forcément des facteurs externes. Souvent, on part de notre propre expérience corporelle ou spirituelle à l'intérieur de nous-mêmes dès le matin. Que vous ayez passé une mauvaise nuit ou une bonne nuit. Et en fait, ça peut impacter toute votre journée. Donc, être présent, être fier de sa présence, ça veut dire que si vous prenez soin de vous, mais genre de manière constante et de manière habituelle, possiblement, vous allez gagner, vous allez être vainqueur pendant une journée, vous allez être vainqueur une semaine, vous allez être vainqueur un mois, et en fait, plusieurs mois dans l'année, et puis au final, vous allez gagner toute l'année, en fait. Vous allez juste accomplir des trucs de fou parce que vous avez un ego qui est sain, une fierté qui est saine, qui n'est pas en comparaison avec autrui, en mode moi je suis fier de moi parce que je fais ci, je fais ça, alors que lui il fait de la merde. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça, ça dégage direct. Là on parle vraiment d'une fierté personnelle individuelle, quelque chose que vous gardez pour vous, vous n'êtes pas obligé de le flaunt, donc vous n'êtes pas obligé de le montrer à l'extérieur, en fait, c'est quelque chose de très personnel, et c'est ce petit sourire que vous pouvez avoir le matin quand ben, voilà, vous sortez de la salle, vous avez un pump, vous êtes ah ouais, là je me sens bien, et c'est pas de la vanité en fait, c'est pas de la vanité, c'est bien plus que ça, c'est juste ben, en fait, un esprit sain dans un corps sain, c'est un truc un peu classique, mais le fait d'être heureux avec vos résultats, d'être heureux avec vous-même, ça a tellement d'impact positif autour de vous. Et c'est pas une question de vous la péter du tout, c'est une question en fait de vous sentir bien dans votre peau pour rayonner cette énergie positive autour de vous. Et attention, alors c'est sûr que la fierté peut avoir des travers, que le fait d'avoir un ego massif a des travers, ça c'est indiscutable, moi j'en suis persuadé. Mais en fait, il faut être capable de se mettre en perspective soi-même et de ne pas forcément être dans le jugement de sa propre personne, mais en fait d'avoir quand même cet aspect comparaison, de me dire waouh, en fait aujourd'hui j'ai quand même été extra mieux que les autres jours, j'ai quand même fait ça en plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et d'avoir ça, c'est pas négatif, c'est pas quelque chose qui est égocentrique ou égoïste, c'est quelque chose en fait, qui peut être très sain pour vous-même parce que ça, si vous êtes très bas en termes de mental et que vous avez du mal à accomplir vos tâches habituelles, que vous avez du mal à vous sentir bien, etc., ben en fait, le fait de vous dire, ah putain, hier, j'ai rien fait, genre si vous partez à zéro, hier, j'ai rien fait et aujourd'hui, j'ai fait ça, et c'est sûr que c'est peut-être pas beaucoup plus que hier, mais c'est toujours plus que hier, le fait d'avoir aim low but aim up, donc cette mentalité de viser bas mais viser toujours plus haut, en fait ça vous permet de vous sortir du trou si vous vous sentez pas bien mentalement et d'être fier de vous en fait, de me dire bah ouais aujourd'hui j'ai fait un pas de plus pour aller mieux, j'ai fait un pas de plus pour atteindre un objectif, j'ai fait un pas de plus pour être heureux dans ma vie. Et ça c'est pour moi c'est ça en fait, cette fierté saine, cet ego sain qu'on peut avoir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette quote, sur cette citation. Je ne sais vraiment pas de qui elle vient. J'ai pas trouvé la source. Je l'ai juste vu passer plusieurs fois sur le net. Et en fait, ça fait un moment que je l'avais notée et que ça me cogitait parce que je ne comprenais pas vraiment le sens. Mais j'essayais vraiment d'y trouver quelque chose. Donc dites-moi sur Insta si vous avez une réaction par rapport à ça, voir comment vous l'interprétez, si vous trouvez ça positif ou quoi, ça peut vraiment être intéressant pour moi. Et donc, ben voilà, c'est la fin de la pensée pour moi-même, et on va passer à la dernière rubrique. Et voilà la dernière rubrique de cet épisode, le pourquoi vous faites ça, et on sait toujours pas vraiment pourquoi on le fait, mais cette semaine-ci, Et ben cette semaine, justement, on va essayer de trouver le pourquoi on fait pas pourquoi on fait pas d'activité physique. Bon, évidemment, j'ai déjà parlé on a discuté plein de fois pourquoi faire de l'activité physique c'est important, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau moral, etc. C'est ultra important, ça c'est indéniable, il y a trop d'études là-dessus. Mais là, c'est plus cet aspect, l'aspect social en fait de l'activité physique qui est considéré comme un hobby. C'est-à-dire que faire du sport aujourd'hui, c'est un hobby. Peu importe si vous faites du foot, si vous allez à la salle, si vous faites de la course à pied, du trail, du badminton, que sais-je. Mais en fait, tout ça, c'est considéré comme un hobby. Et en fait, pour moi, c'est une très mauvaise façon de voir l'activité physique ou de voir le sport santé, parce que ça doit pas être un hobby en fait, ça doit être une habitude de vie, ça doit être quelque chose que normalement 99% des gens, à part si vous avez des conditions médicales très très exceptionnelles, on doit tous faire ça en fait. Ça doit être quelque chose qui rythme notre quotidien au moins 30 minutes par jour, au moins, on va dire, allez, 40 minutes 3 fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais ne fût-ce que marcher en fait, ne fût-ce que marcher 1 heure par jour, faire 10 000 pas, voilà, ça a été prouvé que c'était excellent parce que c'était un exercice de faible intensité cardiaque qui avait un impact sur le système immunitaire, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est plus à prouver. Il y a énormément d'articles de science qui le montrent. Et en fait, c'est vraiment, voilà, je veux vraiment revenir sur cet aspect social de, on considère ça comme un hobby. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de changer cette mentalité? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre aux gens que, en fait, ça doit pas être un hobby, mais que ça doit être quelque chose qui est une partie de notre vie à tous, ben en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué de changer ça et que ce n'est pas un effort solo, ce n'est pas quelque chose que moi, ma petite personne, j'ai la solution ultime pour faire passer ça dans la bouche de tout le monde et que tout le monde s'y mette. Non, c'est vraiment bien plus compliqué que ça. Maintenant, c'est sûr que moi, je vois que j'ai un impact au niveau de mon entourage, au niveau des gens qui font partie de ma vie. Et quelque part, ben, c'est déjà une petite victoire en fait de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas un hobby, que c'est quelque chose à faire dans leur vie et que l'impact que ça a est plus grand que toutes ces heures gâchées, enfin peut-être pas gâchées parce que voilà, on dit que les heures qu'on passe à... Enfin, les heures qu'on aime gâcher ne sont pas des heures gâchées, mais en fait, voilà, l'impact a tellement d'importance. Voilà, je lisais encore un article là-dessus. D'ailleurs, c'est un reel que j'ai repartagé, mais j'ai lu un article qui venait de ce reel sur une étude qui prouve qu'en fait, l'exercice, l'activité physique a plus d'impact et plus efficace, 1,5 fois plus efficace que la thérapie ou la médication suite à une thérapie psychologique. Pour moi, si on se base sur ce genre de consensus scientifique et tous ces articles et ces études qui sont faites, c'est indéniable en fait que ça ne doit pas être un hobby, c'est quelque chose que tout le monde doit intégrer à sa vie. Maintenant, il y a encore beaucoup en fait de stigmas en disant que le sport doit être pénible, ou que le sport est pénible. Il y a beaucoup de gens qui disent bah moi j'ai pas le temps ou ah non ma condition physique dégueulasse, ça va prendre trop de temps, etc. etc. Ou alors ah bah non là on arrive en été, exemple typique, ah bah non il fait trop chaud, je vais pas aller dehors, je vais pas aller suer dehors, ça ira pas du tout. Ben en fait, il y a plein de façons de faire de l'activité physique. Il y a des activités physiques qui sont à rythme lent, comme par exemple ben, le yoga, c'est très lent et pourtant ça a un impact sur le corps juste exceptionnel. Alors qu'on n'aime pas, c'est une chose, mais voilà, c'est une activité physique. Donc je pense qu'il y a une activité physique qui correspond à chacun. Il faut évidemment ben, trouver l'activité qui vous fait plaisir. Parfois, il faut faire plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de vous stopper à un sport. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un d'identitaire au niveau sportif. Je touche un peu à tout. J'adore apprendre de différents sports. D'ailleurs, j'expérimente beaucoup. Mais il faut surtout pas se restreindre à ce genre de choses. Alors ça, c'est une chose. Alors il y a encore un autre truc qui m'énerve, c'est quand vous avez un rythme de vie sain, c'est-à-dire que ben, vous faites du sport, vous faites une activité physique, vous mangez sainement la plupart du temps, pour certains, vous comptez vos calories, il y a un stigma incroyable là-dedans où on va vous dire, ouais, mais t'as pas l'impression que tu profites pas de ta vie. Ben, en fait... On a déjà discuté encore une fois, voilà, vous connaissez mon avis sur la question. Mais en fait, si on profite de la vie, c'est-à-dire qu'on est capable de se faire plaisir et de prendre soin de soi et d'avoir une bonne énergie la plupart du temps, d'être en bonne santé la plupart du temps, d'avoir un système immunitaire qui justement répond mieux aux intempéries, on va dire, que la normale. Et donc ça, c'est très important en fait. Tout ça, c'est des points positifs qui contrebalance absolument tous les points négatifs et contre-arguments que je peux entendre dans le quotidien de gens qui ne font rien en fait. Et il y a une quote que je trouve pas mal, une citation que je trouve pas mal, qui remet un peu ça aussi à une bonne lumière, c'est que en fait l'activité physique, le sport n'est pas une punition de votre mauvaise gestion de vie. Mais ça doit être en fait une célébration de votre capacité physique à faire de l'exercice. C'est-à-dire que le sport, le fait de pratiquer, ça doit être une célébration du fait que votre corps est capable de faire ça. Et pas une punition, un châtiment de vous faire mal, je sais pas quoi, mais c'est pas un truc sadomaso en fait. C'est très sain comme relation. Et la relation avec l'exercice physique, c'est justement faire du bien à votre corps pour que lui vous le rende au mieux. Et comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, justement, il faut entraîner le corps pour qu'il ne soit pas désobéissant à l'esprit en cas d'adversité. Et c'est très très important tout ça. Et je pense que ensemble avec ce podcast, avec cette communauté qui se crée petit à petit et qui grandit petit à petit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens à toucher avec ça et d'essayer de reconnecter un peu les gens à l'activité physique en leur faisant comprendre qu'en fait c'est pas un hobby, c'est juste une façon d'inclure quelque chose d'important à sa santé dans la vie. Et d'essayer de... Enfin personnellement, mon objectif c'est aussi d'essayer de raccrocher ça avec une connexion à l'extérieur parce qu'on est de plus en plus connectés, on est de plus en plus sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur nos écrans, etc. On ne se reconnecte plus au monde naturel, on va dire. Et je trouve ça tellement important. Et pourtant, voilà, je suis quelqu'un qui tra voilà, je travaille dans la, je suis développeur, je travaille dans l'informatique depuis maintenant 11 ans. Et j'ai jamais trouvé ça aussi important que maintenant, à cette époque hyper connectée, hyper réseaux sociaux, que de retrouver cette connexion avec l'extérieur, avec la nature, avec le monde réel, en fait. Et voilà, vraiment. J'espère que ce podcast, je sais au fond de moi que ce podcast a aidé des gens à se remettre en main, à se reprendre en main, à se lancer dans une activité physique plus ou moins régulière. Je dis pas tous les jours, même si voilà, objectivement, ça serait le mieux, mais au moins faire quelque chose, au moins se lancer. Aim low but aim up, comme d'hab. On vise bas, mais on vise vers le haut. Et ça, c'est en fait, c'est des bons exemples, en fait, c'est des bonnes choses. C'est quelque chose qui a de la valeur à mes yeux de pouvoir donner ça et de vous donner envie de le faire et j'ai envie que vous le partagiez aussi en fait. En fait, j'ai cette envie de que ce soit comme planter une graine et que vous, autour de vous, en fait, à force de faire les choses, ça va rayonner et les gens autour de vous vont le voir et vont se dire, ah ouais, mais lui, en fait, maintenant, il fait ci, il fait ça. Je vois que ça a de l'impact sur lui, peut-être que je devrais tester, ils vont peut-être avoir cette inspiration. Et voilà, je ne vous demande pas de faire une chaîne YouTube, de faire des podcasts, etc. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais c'est vraiment avoir ce truc de me dire, voilà, moi, je vous le transmets, vous le faites, et en le faisant, en ayant des résultats, et en fait, ça a un impact petit à petit, il y a vraiment des nœuds qui se créent, et c'est... Pour moi, c'est magique en fait. C'est juste, c'est avoir un impact qui est plus grand que ce que j'aurais jamais pu espérer. Et j'espère continuer à pouvoir le transmettre. Alors justement, là maintenant, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous montrer ça sous un autre jour. J'ai vraiment envie, en fait, de vous partager des profils de personnes qui sont dans ma vie et qui ont un peu qui pour moi sont des exemples à suivre parce que bah ils partent pas forcément de quelque chose, mais ils sont arrivés à des niveaux que même dans leur propre rêve il y a 10 ans de ça, ils n'auraient pas été capables de se dire ouais, je suis capable de le faire. Et pour moi, partager ça avec vous, ça va être quelque chose de fort, et j'espère que ça va être inspirant parce qu'en fait, ce podcast à la base, c'était pour moi, c'était un journal personnel que quelque part je mettais public pour avoir justement une réflexion sur moi-même. Mais l'impact que ça a aujourd'hui est trop important, et enfin, en tout cas à mes yeux, et j'ai vraiment envie de vous montrer ça à travers des différents profils. Donc je vais essayer d'avoir en fait des invités, d'avoir des épisodes un peu spéciaux sur ce podcast. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un moment, et là ça va enfin se concrétiser. Je vais avoir des gens de mon entourage qui vont venir, on va apprendre, je vais vous les présenter en fait, je vais vous montrer qui sont ces personnes, je vais leur donner la parole et vraiment vous montrer à quel point tout ça, ça a un impact dans la vie de tous les jours, d'être régulier, de faire une activité physique, de se prendre en main, de profiter de la vie, mais en ayant cet aspect approche santé first, en fait, priorité à la santé, priorité à son bien-être physique et mental, et comme ça on avance, comme ça on progresse. Et donc voilà, avec ça, avec cette dernière rubrique, c'est la fin de ce podcast, de cet épisode, l'épisode 20 déjà, donc ça fait 20 semaines qu'on fait des podcasts, c'est incroyable, l'expérience est incroyable, j'adore toujours autant. J'avoue que j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup distrait ces derniers temps, que je n'ai pas été vraiment dans les timings que je m'étais imposé. Maintenant, j'espère que la qualité est toujours là, j'espère que le contenu vous plaît toujours autant. Je vous apporte de la suite, dans la suite, je vais vous apporter vraiment des surprises, je vais vous apporter un contenu bien différent. On va essayer d'avancer ensemble et j'espère vraiment que vous allez partager ça avec le plus de monde possible. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, n'hésitez pas à follow sur Spotify. Si vous avez vu via les réseaux, enfin si vous n'avez pas vu via les réseaux sociaux, allez sur Instagram, allez sur Facebook, vous cherchez la prépa podcast directement dans la barre de recherche. Il y a soit la page Facebook, soit le compte Instagram où je suis beaucoup plus actif, où je vous partage mes entraînements de manière hebdomadaire ou de manière journalière même, et je partage encore plus au niveau développement personnel. N'hésitez pas à partager cet épisode avec le plus de gens possible, ça m'aide énormément pour le référencement. Et quant à moi, comme d'habitude, en fait, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente semaine de grind, je vous souhaite une excellente semaine de sport, d'entraînement, et profitez un max du soleil, il est là, sortez en vélo, allez marcher, allez faire des randos. Franchement, c'est le bon moment, on arrive à l'été, faites le plein de vitamine D. Et voilà, je vous dis à très bientôt avec plein de surprises et ciao !